Chapitre 37. 1er novembre 2010. Préfecture de la Savoie. Carte d'identité délivrée aux citoyens français. Numéro 98-761. Nom. Prénom Blanche. Né le 7 mars 1946. À Flumet. Département de Savoie. Domicile Flumet. Signalement. Taille 1m43. Cheveux châtains. Yeux marrons. Nez moyen. Forme générale du visage ovale. Teint. Signe particulier. Empreinte digitale, les 2 pouces. Signature du titulaire. À Chambéry, le 3 janvier 1958. Le préfet. Mais pourquoi on a rayé son nom de famille? Les yeux écarquillés, Nathalie lit et relit chaque mot, scrute les tampons, le timbre, les effleure du bout des doigts. Elle ne détache pas les yeux du papier qu'elle tient entre ses mains, puis elle finit par dire « T'as vu sa signature? C'est une croix. Elle avait 12 ans quand on la lui a délivrée. Il n'y avait rien d'autre dans l'enveloppe? Rien. » Je m'abstiens de parler de l'autre enveloppe, celle où j'ai découvert un article sur le père de Blanche. Je lui en parlerai plus tard. Elle étudie le portrait de la petite fille. Je n'ai pas de souvenir de ta tante jeune. Regarde, lui dis-je en posant une photo de Colette sur la table. Elle a à peu près le même âge que Blanche sur la pièce d'identité. Ma tante tient mon père par les épaules, on voit le château de Sénéchal à l'arrière-plan. Je pense que c'est un cliché de Blaise qui possédait un appareil. Je l'ai toujours eu dans mon portefeuille. Maman me l'a donné quand j'avais le même âge que Colette sur la photo. Papa est tellement beau qu'on a envie de le croquer. Putain ! S'étouffe Nathalie. J'ai dit la même chose quand j'ai trouvé cette carte d'identité planquée sous le meuble télé tout à l'heure. C'est carrément dingue. Elles auraient pu se faire passer l'une pour l'autre, on dirait des jumelles. Il paraît qu'on a tous un sosie sur Terre.
Ouais, il paraît.
Tu as vu la double vie de Véronique? Nathalie fait une moue dubitative.
C'est quoi?
Un film de Kieslowski avec Irène Jacob. C'est un film magnifique, éblouissant. C'est l'histoire de Véronica et Véronique. L'une est polonaise, l'autre française. Elles n'ont aucun lien de parenté, ne se sont jamais rencontrées, et pourtant elles sont semblables en tout. Et il leur arrive de ressentir les mêmes émotions au même moment.
Je l'ai vu, il y a un marionnettiste aussi.
Oui, interprété par Philippe Voltaire.
Tu rougis, Agnès.
J'adorais cet acteur. Je voulais l'engager, mais il est parti un peu avant que je débute mon dernier casting. Tu sais, j'ai besoin d'aimer quelqu'un pour le filmer. Surtout quand il s'agit d'un homme. C'est pour ça que... Bref, aucun intérêt.
Tellement d'intérêt. Raconte-moi tes conquêtes.
Mes conquêtes? Quelles conquêtes? Revenons à nos moutons. Nathalie a l'air déçue que je coupe court. Pourquoi Colette s'est-elle fait passer pour morte quand Blanche est décédée? J'insiste. Qu'est-ce qui les liait? Elle lève la main et commande 2 expressos. Nous sommes au café juste en face de l'église. Le lieu se remplit au fur et à mesure que les gens sortent de la messe. Tu crois qu'on a vraiment tous un double? Me questionne-t-elle.
J'ose espérer que certains n'existent qu'en un seul exemplaire.
Elle éclate de rire.
C'est fou que ta tante ait planqué ce papier.
D'autant qu'il n'a plus la moindre valeur juridique depuis des décennies. Colette voulait sans doute qu'on le trouve le jour où on déménagerait sa maison des Fredins, pour laisser une trace de l'existence de Blanche, mais que personne ne puisse tomber dessus avant sa mort. Je suis convaincue qu'elle la protégeait de son père.
Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Je n'ai pas le temps de sortir la 2e enveloppe de mon sac. Lies, Adèle et Hervé débarquent.
Alors les filles ont fait la sortie des églises?
Lies remarque tout de suite la vieille carte d'identité posée sur la table.
C'est quoi?
La trouvaille du jour. Ma tante l'avait planquée sous le meuble télé. Nathalie la lui tend.
C'est la fille du cirque dont tu m'as parlé l'autre jour?
Demande-t-il.
Oui. Justement, ça tombe bien, dit-il.
Lies part chercher quelqu'un au fond du bar, tandis qu'Adèle et Hervé s'installent à nos côtés. Adèle me demande si c'est la femme qui est enterrée à la place de ma tante. Je réponds que ça ne fait presque plus aucun doute.
La carte d'identité jaunie passe de main en main.
Hervé a l'air fatigué.
Petite nuit, me répond-il en me faisant un clin d'œil.
Adèle me demande si je vais en parler aux flics,
je l'ignore. Je n'ai aucune nouvelle du capitaine Rampin depuis mon arrivée, et je n'ose pas l'appeler. J'ai peur qu'il m'annonce que je peux récupérer le corps de ma tante. Aurais-je la force d'organiser ses funérailles?
Les mots de Pierre résonnent dans ma tête comme le bruit d'une perceuse, lancinant, douloureux, permanent.
Liès revient, accompagné d'un homme âgé qui se déplace à l'aide d'une canne.
Agnès, je te présente Monsieur Aubert. C'est une des mémoires de Guignon. Il a travaillé à la mairie dans plusieurs services.
Je me lève et lui serre la main.
Enchantée, Agnès Duguin.
Le vieux monsieur est beau avec ses rides du sourire autour de la bouche et des yeux. Son regard bleu est encore vif.
Liès tire une chaise pour lui permettre de s'asseoir près de nous.
Il pose sa canne contre la table.
Je viens de demander à Monsieur Aubert s'il se souvenait du cirque du Père de Blanche, et figure-toi que oui. Vous pouvez leur raconter ?
Il y a un peu plus de 50 ans, je venais d'entrer au service des états civils. Un matin, j'ai remplacé une collègue à l'accueil. Madame Fernandez a appelé le standard. Je la connaissais bien, c'était une amie de ma mère. Elle était paniquée. J'ai eu du mal à comprendre ce qu'elle racontait. Un animal s'était échappé du cirque, installé en face de chez elle, et s'était réfugié dans son jardin. Quand je lui ai demandé quel type d'animal c'était, elle m'a répondu « Un monstre, il est dans mon cerisier ». J'ai appelé la police municipale, en vain. Alors j'ai décidé de me rendre sur place. J'ai trouvé Madame Fernandez complètement affolée, en robe de chambre. Il devait être 10 heures du matin. Et là, dans le jardin, j'ai vu l'impensable, une sorte de singe à deux têtes caché dans les hautes branches d'un arbre. L'animal hurlait. Un hurlement a déchiré le cœur, même celui d'une pierre. J'ai pensé qu'il était blessé. Je suis ressorti pour me rendre au chapiteau situé à 200 mètres, quand mon chemin a croisé celui d'une fillette. À son regard, j'ai tout de suite compris qu'elle faisait partie du cirque. Ne me demandez pas pourquoi, juste un regard, pas comme celui des autres gamins. Lorsque je lui ai expliqué qu'un animal s'était échappé, elle m'a répondu
« Oui, je sais, c'est Noé. C'est moi qui ai ouvert sa cage. Je voulais qu'il parte loin. »
« Mais pour aller où ?» je lui ai demandé. « Il ne peut pas vivre dans la nature. C'est impossible. » Elle a hoché la tête.
« Vous avez sûrement raison. »
Elle a semblé réfléchir un long moment avant de m'annoncer qu'elle allait le chercher. Et elle m'a suivi chez Madame Fernandez. Je l'ai disputé, j'ai insisté sur le fait qu'il ne fallait plus jamais le laisser sortir, que ses parents pourraient avoir de graves ennuis si elle recommençait.
« Je n'ai pas de parents, monsieur. »
Sa phrase résonne encore en moi. « Je n'ai pas de parents, monsieur. » Il a suffi qu'elle appelle le primate en prononçant des mots étrangers, on aurait dit une langue slave, pour qu'il descende se réfugier dans ses bras. Madame Fernandez a crié comme si elle voyait le diable. L'enfant l'a rassuré.
Il est sale mais pas méchant, faut pas avoir peur.
Je l'ai suivi. Je n'oublierai jamais cette image. Elle de dos et les têtes du primate posées sur chacune de ses épaules, comme deux petits enfants. Elle s'est dirigée vers une caravane à l'écart et elle a mis l'animal à l'intérieur. Un homme s'est précipité vers nous, écumant de rage. « Qu'est-ce que t'as foutu avec la bestiole ?» Il hurlait, un nerf de bœuf à la main qu'il agitait dans tous les sens. La petite n'a pas bronché. Elle n'a même pas eu l'air d'avoir peur. Je lui ai ordonné de se calmer. J'étais jeune, mais j'ai eu le courage de me mettre entre cette brute et l'enfant. Vous êtes qui ? Il a aboyé, rouge de colère, prêt à me frapper avec son horrible matraque. Il était petit, costaud, très musclé. Ses yeux un peu bridés étaient pleins de haine. Il avait des lèvres fines, un long nez. Sa peau était grêlée. Il avait plusieurs tatouages sur les bras, des poignards de différentes tailles. C'était pas commun à l'époque. Il y avait que les marins qui se tatouaient avant de prendre la mer. Leur tatouage, c'était leur identité. Mais tous ces couteaux sur sa peau, ça m'a fait froid dans le dos. J'ai bredouillé mon nom et dit que je représentais la mairie. Il s'est calmé aussitôt. Il a eu l'air d'avoir la trouille ou de se méfier. « Vous êtes le directeur de ce cirque ?» J'ai demandé d'une voix ridiculement grave pour me donner de l'importance, alors que vraiment, pardonnez-moi l'expression, je chiais dans ma culotte, tellement ce type fichait la frousse. Il dégageait beaucoup de violence. Agressif, il a répondu « Ouais, c'est moi. Et la diablesse qui est derrière vous et qui perd rien pour attendre, c'est la mienne. » Je me suis retourné vers elle. Elle m'a regardé avec un drôle de sourire. À la fois dur, amusé et triste. Comme quelqu'un qui est revenu de tout alors qu'elle était haute comme trois pommes.
Je n'ai pas de parents, monsieur.
J'ai demandé à la brute où était la mère de l'enfant. Sûrement parce que savoir que cette petite avait une mère m'aurait rassuré. Il a répondu qu'elle était morte depuis belle lurette. Et que c'est lui qui réglait son compte à celle-là, qui était plus une enfant, mais une vicieuse qui faisait ses coups en douce. Qu'est-ce qu'il entendait par lui régler son compte? Je préfère ne pas savoir. Puis il a ajouté qu'il levait le camp dans la journée. Qu'il ficherait plus jamais les pieds dans ce trou, pas assez de peuple. Il ne parlait pas à ce type-là, il invectivait. L'histoire pourrait s'arrêter là. La gamine a filé je ne sais où. Son père a rejoint des hommes qui démontaient le chapiteau, son air de bœuf toujours à la main, et je suis rentré à la mairie. Mais deux jours après, j'ai reçu une carte postale de Guignon dans la boîte aux lettres de la mairie. On avait écrit en lettres majuscules « La mère de la petite est vivante. Elle est née à Flumet et s'appelle Marie-Roman. » Marie-Roman. J'ai jamais oublié son prénom et son nom. La carte n'était pas signée. J'ai mis quelques minutes à faire le rapprochement entre ces mots et la fille du cirque. Qui m'a envoyé cette carte représentant l'église romane de Guignon sous un ciel d'été? Je ne l'ai jamais su. Je suis retourné sur la place Charles de Gaulle. Ils avaient disparu. Je ne les ai jamais revus, ni le père, ni la petite. J'ai appelé la mairie de Flumet le jour même. J'ai dit que j'avais un doute sur l'identité de quelqu'un et que je recherchais une certaine Marie-Roman, une habitante de leur circonscription. Ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient dans la journée, et ne l'ont pas fait. J'ai téléphoné le lendemain. Je suis tombé sur une femme très désagréable, qui m'a dit elle aussi qu'elle me rappellerait, et qui ne l'a pas fait. Et puis j'ai oublié, abandonné, laissé tomber. J'ai commencé à me dire, à quoi bon raconter à cette Marie-Roman que j'avais peut-être vu sa fille un jour à Guignon. Et après? C'était il y a un peu plus de 50 ans. J'ai gardé la carte postale quelques années sur mon bureau, avant de finir par la jeter ou par la perdre, je ne sais plus.